théologie scientifique, le Verbe incarné, le 21 décembre 84, Rimont.
Nous allons terminer cette question 2, parce qu'il faut bien la terminer. Il faut avancer. Alors je reprends la question, l'article 11, cette question intéressante. L'union de l'incarnation a-t-elle été la conséquence de quelques mérites ? L'Église, voyez la cinquième objection, la troisième objection. L'Église chante dans sa liturgie à la bienheureuse Vierge qu'elle a mérité de porter le maître du monde, ce qui s'entend évidemment de l'incarnation. Celle-ci est donc objet de mérite. Alors, saint Augustin écrit « Celui qui prétend trouver en notre chef des mérites précédant son unique génération, qu'il cherche en nous, ses membres, des mérites antérieurs à notre multiple régénération. Mais notre régénération n'est précédée d'aucun mérite de notre part. Selon ce mot de l'Épître à Tite, ce n'est point à raison des œuvres de justice que nous avons faites, mais dans sa miséricorde qui nous a sauvés, au moyen d'un bain de régénération. C'est donc que la génération elle-même du Christ n'a été précédée d'aucun mérite. Alors, l'article de saint Thomas, pour ce qui est du Christ lui-même, il est manifeste, d'après ce qui a été dit, qu'aucun de ses mérites n'a pu précéder l'union hypostatique. Nous ne prétendons pas, en effet, comme Photin, que le Christ fut d'abord un homme ordinaire et qu'ensuite, par le mérite d'une vie sainte, il obtint d'être fils de Dieu. Mais nous disons que dès le principe de sa conception, l'homme, il fut vraiment le fils de Dieu, n'ayant d'autre hypostase que celle du fils de Dieu. Selon ce mot de saint Luc, l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est pourquoi toute activité proprement humaine est conséquente en lui à l'union. Aucune de ses actions n'a donc pu mériter cette union. Bien plus, les œuvres d'un homme, quel qu'il soit, n'ont pu mériter en justice l'union de l'incarnation. La raison première en est que les œuvres méritoires de l'homme sont ordonnées à la béatitude, laquelle est la récompense de la vertu et consiste dans la pleine jouissance de Dieu. Or, l'union de l'incarnation, qui se réalise en l'être personnel du Verbe, dépasse l'union de l'Esprit bienheureux à Dieu, laquelle s'opère par un acte de l'élu. Cette union ne peut donc être objet de mérite. De plus, la grâce qui est principe de mérite n'est pas par elle-même objet de mérite. À plus forte raison, l'incarnation ne l'est pas. Elle qui est principe de la grâce, selon cette parole de saint Jean, la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Enfin, l'incarnation du Christ répare la nature humaine tout entière. Elle ne saurait donc être méritée par un homme ordinaire, car la bonté d'un individu ne peut être cause de la bonté de toute une nature. Cependant, il est exact que les saints-pères, par leurs désirs et leurs prières, ont mérité d'un mérite de convenance l'incarnation. Il convenait en effet que Dieu exauça ceux que lui qui lui était fidèle. Donc, vous voyez cet article qui est assez facile à comprendre, mais qui est très important au point de vue de l'économie divine. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit essayer de le comprendre. Que représente, selon la sagesse de Dieu, la grande attente vis-à-vis du mystère d'incarnation? Que représente cette ultime attente dans le cœur de Marie? Toute cette attente est donc d'ordre, comme il est dit, ex congro tamen meruerunt sancti patres incarnationem. Ex congro, c'est-à-dire c'est de l'ordre de la disposition. Ce n'est pas de l'ordre du mérite au sens absolu, qui serait comme un ordre du même, un ordre efficace, si vous voulez. L'homme, face au mystère de l'incarnation, est dans un rapport de dépendance, puisque toute grâce que les hommes ont reçue après le premier péché est une grâce qui provient du mystère du Christ. Il est sauveur de tous les hommes. Et donc, toutes les grâces qu'ils ont eues proviennent du Christ. Et donc, ne peut pas être méritoire au sens fort du Christ. Mais elle est ex congro, c'est-à-dire de l'ordre de la disposition, elle oriente vers le Christ, parce qu'elle provient du Christ, tout simplement. Alors, ça nous permet de comprendre toute la gratuité du mystère de l'incarnation. Alors, je crois que ça rejoint, vous voyez, très nettement le premier article de la question 1. Il faut mettre ça en parallèle avec le premier article de la question 1, où il nous est montré que la seule raison qui nous permet de comprendre la convenance de l'incarnation, c'est la bonté du Père. Et alors, cet article montre que cette bonté nous est donnée toute gratuitement. Les hommes ne peuvent pas coopérer d'une façon efficace au mystère d'incarnation. C'est donc la grâce la plus gratuite de toutes les grâces. C'est très important, vous voyez, pour comprendre l'attitude de Marie à l'égard du mystère de sa maternité, puisqu'elle est toute proche du mystère d'incarnation. Elle est celle qui, donc, l'a vécu de la manière la plus proche. Elle l'a vécu dans une attitude de pure gratuité. Les deux se tiennent, hein. Mystère de maternité divine de Marie, mystère de l'incarnation. Et là, nous saisissons bien cette gratuité absolue. Vous voyez la réponse de saint Thomas à propos justement de la Vierge Marie. On dit que la bienheureuse Vierge Marie a mérité de porter notre Seigneur Jésus-Christ, non pas qu'elle ait mérité que Dieu s'incarna, mais parce qu'en s'appuyant sur la grâce qui lui était donnée, elle a mérité un degré de pureté et de sainteté telle qu'elle puisse dignement être la mère de Dieu. Oui. Donc, ex congro, dignement, le fameux chose de quia meruit ex gratia sibi data, secundum illum puritatem et sanctitatis gradum ut congroe posset esse mater dei. C'est très très important pour nous, vous voyez, parce que ça fait comprendre la perspective propre de l'économie divine par rapport au mystère chrétien. C'est l'attitude de la gratuité qui doit dominer qui domine toute l'économie divine chrétienne, et donc qui doit dominer dans notre cœur. Nous ne sommes pas dans un ordre de justice au niveau du mérite. On est dans un ordre de gratuité au sens le plus fort. Et on entre dans cet ordre de gratuité. Et on doit entrer dans cet ordre de gratuité qui nous fait entrer dans ce mystère même de l'incarnation. Alors, vous voyez, les raisons que donne saint Thomas sont faciles à comprendre. Elles montrent tout simplement la place exacte la place exacte du mystère d'incarnation. Le mystère d'incarnation est la clé. C'est le principe, c'est la fin. C'est donc à partir de là que tout doit se comprendre. Que toute grâce vient du mystère d'incarnation, toute grâce est chrétienne. Par rapport au mystère du Christ, c'est bien évident qu'aucun acte du Christ ne pouvait mériter le mystère de l'union hypostatique, puisque c'est le mystère de l'union hypostatique qui constitue Jésus comme une personne capable de mériter. Alors, operatio sequitur esse, le grand principe. Or, le point de vue du mérite, c'est operatio sequitur esse. Et l'essai, c'est le mystère de l'union hypostatique. Je crois que ça ne fait pas de difficulté, c'est assez simple comme raison, mais c'est très important, ce sont ces questions qui, au point de vue scientifique, sont faciles, hein. Il n'y a pas aucune difficulté, on voit ça immédiatement, mais c'est très important dans les conséquences, au point de vue vision mystique. C'est ça qui nous fait saisir l'attitude véritable de Marie par rapport au mystère d'incarnation. Vous voyez, c'est pas pour rien que ça arrive comme ça en dernier lieu, comme dernière petite objection comme ça. Hein. Alors, ça c'est tout à fait significatif. C'est, on reprend ça au point de vue spirituel, au point de vue mystique. C'est l'attitude de Marie par rapport au mystère d'incarnation qui nous fait comprendre l'attitude que nous devons avoir par rapport au mystère d'incarnation. Puisqu'elle est modèle pour nous. Alors, elle nous fait comprendre cette attitude-là d'une façon pratique, donc d'une façon mystique, si vous voulez. Mystiquement, c'est ça. Comme on est tout proche de Noël, c'est très important pour nous. C'est très important de comprendre comment Marie a vécu le mystère de l'Avent. Est-ce qu'elle l'a vécu comme tout simplement « Oui, je coopère à cette œuvre, c'est justice. » Non, pas du tout. Je coopère à cette œuvre, c'est de la pure gratuité. Et c'est de la gratuité tout le temps, c'est ça qui est merveilleux. Oui, parce que les mérites de notre vie proviennent d'une gratuité. Et la gratuité est antérieure au mérite. C'est très important, vous voyez, par rapport à toute la question du mérite, par rapport aux protestants. Vous voyez, si on avait affirmé ça davantage devant Luther, peut-être qu'il n'aurait pas eu cette réaction. Parce qu'on a insisté trop sur le point de vue du mérite, on a insisté trop sur la justice, alors la réaction violente, non, c'est la gratuité qui est première. Et c'est vrai, tout le mystère de l'économie divine est enveloppé de gratuité. Et on est dans ce mystère de la gratuité. Si on quitte cette gratuité, on quitte le regard vrai dans lequel on doit être. L'économie chrétienne est une économie de gratuité. Et je crois, vous voyez, c'est important pour nous, parce que plus on s'approche du terme, comme dit saint Thomas, hein, le grave, quand il s'approche du terme, il se précipite avec une rapidité extraordinaire, hein. Bon, plus on s'approche du terme, nous ne savons pas quel est le terme. Mais on voit un procédé d'accélération partout. Il y a un procédé d'accélération. Et par rapport à l'Église, il y a un procédé d'accélération. Ça, c'est sûr. Et c'est, je crois, la très grosse différence de ce que représente l'économie de l'Église dans ses débuts. Et l'économie de l'Église actuellement. Alors, ça ne supprime pas la prudence, ça ne supprime pas la justice, c'est bien évident. Mais c'est ce procédé d'accélération qui est le procédé de la gratuité. Et je crois que c'est cela que l'Esprit Saint fait vivre actuellement, d'une façon très particulière. C'est pour ça que ce chapitre, cet article 11 est très important. Article 12. La grâce d'union fut-elle naturelle au Christ ? En tant qu'homme. Alors là, évidemment, c'est encore plus gros, n'est-ce pas ? Vous voyez bien. C'est par rapport au Christ, ça c'est très très beau aussi, pour essayer de comprendre jusqu'où va cette gratuité. Alors, voyez la première objection. L'union de l'incarnation s'est faite dans la personne et non dans la nature. Mais une chose est dénommée par son terme, la grâce d'union doit être donc dite personnelle plutôt que naturelle. C'est donc curieux comme objection. Saint Augustin écrit « Dans l'assomption de la nature humaine par le Verbe, la grâce qui rend cet homme impeccable lui est de quelque façon naturelle. » Alors, d'après Aristote, il faut bien mettre Aristote en face de saint Augustin, il faut aimer ce petit discours de saint Thomas, hein. La tradition, Augustin, Aristote qui paraît là, on comprend que ça met en boule certains. D'après Aristote, le mot « nature » signifie tantôt la naissance d'un être, tantôt son essence. On l'a déjà vu, ça. Il faut être très souple là-dessus. Et bien comprendre ce que ça veut dire. Fouseille. Hein. D'où le blond dit « la nature, c'est la croissance. D'où c'est l'évolution. » Hein, très bien. Donc, Aristote n'est pas du tout contre l'évolution, puisque la nature implique l'évolution, ça implique la croissance. Il s'agit de bien comprendre ce que c'est que l'évolution et ce que c'est que la croissance. En sorte qu'une chose peut être dite naturelle de deux manières. En ce sens qu'elle procède des principes essentiels d'un être. Ainsi, il est naturel au feu de s'élever en haut. Ou bien en ce sens que l'être, l'homme par exemple, la possède dès sa naissance. Ainsi, il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, Aristote avec l'Épître aux Éphésiens, « Nous étions par nature des fils de colère. » Et au livre de la Sagesse, leur nation est méchante et la malice leur est naturelle. Très intéressant, ça. Et c'est très important pour nous. Vous voyez ? Parce que cette distinction, peut-on la faire au niveau psychologique ? Alors, on est né avec le péché, nous. Donc le péché est naturel. Donc les concupiscences sont naturelles. Donc laissez les concupiscences se développer, quoi. Oui, parce que c'est naturel. Tout ce qui est naturel, il faut le laisser se développer, il ne faut pas lutter contre. Oui. Alors, et il y a deux choses, comme dit saint Thomas et souligne saint Thomas, le naturel s'entend de deux manières. Mais pour pouvoir dire ça, il faut distinguer l'état de nature et la nature. Si état de nature est naturel, c'est bien évident, on est né dans cet état de nature. Mais cet état de nature peut être un état de corruption qui va contre la nature. Et donc certaines tailles du père qui peuvent paraître psychologiquement contre nature sont plus naturelles que tout le reste. C'est la vie religieuse. La vie religieuse peut apparaître comme une taille du père contre nature. Oui. Contre certaines concupiscences, c'est bien évident. Et être plus naturel que tout le reste, parce que c'est la seule manière de retrouver la nature dans toute sa force. Ce n'est pas un retour au paradis terrestre, c'est bien évident, mais c'est un retour au nouveau paradis terrestre qui est le cœur de Jésus. Et c'est par la vie religieuse qu'on y retourne le plus vite possible. Donc c'est ce qu'il y a de plus naturel. Il faut de temps en temps dire ça aux parents. C'est important. Et aux parents, et à nous, le petit païen qui est toujours là et qui veille. Et qui n'aime pas toujours la taille du père, parce que la taille du père, elle est nécessairement, quelquefois, contre la spiritualité de l'arbre à vent. Alors, la grâce du Christ, qu'il s'agisse de la grâce d'union ou de la grâce habituelle, ne peut être dite naturelle au sens où elle serait causée par les principes de la nature humaine. Elle peut être dite naturelle cependant en tant qu'elle provient dans la nature humaine du Christ, de sa propre nature divine qui la cause. Mais l'une et l'autre grâce sont naturelles au Christ en ce sens qu'il les possède depuis sa naissance. Car dès le premier instant de sa conception, la nature humaine fut unie à la personne divine et l'âme du Christ fut remplie du don de la grâce. C'est très très beau comme distinction. C'est très important, vous voyez, parce que ça, c'est très important de pouvoir faire cette distinction et la faire, au fond, toutes les confusions proviennent de là, hein. Arriver à faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit quelque chose est naturel. Alors, attention, est naturel, si je réduplique sur l'essence, sur la nature, la structure de la nature humaine, il est bien évident que la grâce n'est pas naturelle. Par définition, puisque la grâce est surnaturelle. Donc elle n'est pas naturelle. Elle est métanaturelle. Elle est surnaturelle. Elle n'est pas contre nature, mais elle est surnaturelle. C'est-à-dire qu'elle ne peut être causée dans notre nature humaine que par une autre cause, qui n'est pas la nature humaine. La nature humaine ne rend pas raison de la grâce. Vous pouvez creuser, jamais vous ne trouverez la grâce dans la nature humaine. Vous trouverez l'image de Dieu, mais vous ne trouverez pas la filiation divine. Vous ne trouverez pas. Très important de comprendre ça. Vous pouvez creuser, vous ne trouverez jamais. Si vous regardez naturel comme ce qui est contemporain de notre nature, c'est-à-dire qui a toujours accompagné notre nature. Alors, notre état existentiel, ce n'est plus la nature prise comme principe et comme essence, mais notre état existentiel. Nous sommes nés dans le péché originel. Jésus est né dans la sainteté. Il est né dans la sainteté. La nature humaine dans le Christ a tout de suite été, dès le premier moment de sa conception, unie au Verbe. Donc la sainteté même du Verbe. Et la nature humaine du Christ a tout de suite reçu la plénitude de grâce. L'autre sainteté, la double sainteté du Christ. Il est né dans une double sainteté. Sainteté personnelle, l'union avec le Verbe. Sainteté propre à la nature humaine du Christ qui a reçu cette plénitude de grâce. Donc, vous voyez comment vous pouvez dire à la fois que la grâce est naturelle à la nature humaine du Christ, cette grâce d'union, et comment vous devez dire qu'elle ne l'est pas. On voit très bien la discussion qui peut durer indéfiniment là-dessus. Hein. L'équivoque terrible sur le mot nature. Surtout sur le mot naturel, phouseï. L'expression d'Aristote qui est toujours très intéressante et qui fait toutes les confusions au point de vue de l'interprétation. C'est vrai ? Le fouseil d'Aristote. Ce qui est par nature, ce qui est naturel. Alors, nous faisons la distinction. Ça, c'est l'état. C'est l'aspect existentiel. En politique, il parle tout le temps du fouseil. Fouseil, c'est naturel. La famille, c'est naturel. Oui, c'est naturel. La communauté politique, c'est naturel. Oui, c'est naturel. C'est fouseille. Parler, c'est naturel. Gardez le silence aussi. N'est-ce pas ? C'est naturel. Parce que ça dépend des états particuliers. Puis là, fousis. La fousis prise comme nature, comme les principes essentiels. Donc, comme saint Thomas dira, l'essence. Hein ? Mettez ça bien entre guillemets, c'est en théologie, vous pouvez dire ça. Alors, voyons les réponses. Oui, dites. Toujours, toujours.
C'est en théologie que la question...
Ah, non, non. En philosophie, je peux faire la distinction au niveau... Ça dépend à quel niveau. Pas au niveau pratique. Toute la philosophie pratique, je ne peux pas la distinguer. Mais dès que je suis au niveau spéculatif, je peux. Parce qu'au niveau spéculatif, je saisis ce que c'est que les principes de la nature. Je saisis la nature comme un principe. Or, l'état de nature n'est pas un principe. Oui. Oui, c'est évidemment au point de vue philosophique, je ne peux pas voir l'histoire du péché originel. Je dois la laisser de côté, mais je m'aperçois en éthique, par exemple, je m'aperçois la propension terrible de l'homme vers le sensible. Et c'est la parole, la fameuse parole d'Aristote, ut in pluribus manet in sensu. Nous nous dirons en théologie conséquence du péché originel. Le philosophe ne peut pas le dire. Il constate manat in sensu. La plupart du temps, les hommes ne dépassent pas l'imaginaire, puisque c'est ça que ça veut dire. La plupart du temps, les hommes ne dépassent pas l'imaginaire. Ils demeurent dans l'imaginaire. Ils ont une peine énorme de dépasser l'imaginaire. Une fois dans leur vie, ils ont dépassé l'imaginaire. Hein? Et à ce moment-là, ils sont sages. Mais la plupart du temps, ils demeurent dans l'imaginaire. Donc, Fusel. La plupart du temps, naturellement, l'homme demeure dans l'imaginaire. Il a une peine énorme de découvrir sa finalité. Pour découvrir la finalité, il faut être au-delà de l'imaginaire. Oui. Alors, le théologien dira « conséquence du péché », le philosophe il constate. Alors, voyons la réponse aux objections. Bien que l'union ne se fasse pas dans la nature, elle est cependant produite par la puissance de la nature divine, laquelle est vraiment la nature du Christ. Oui, le jeu sur la nature. Et de plus, elle appartient au Christ dès sa naissance. Donc, doublement naturelle, mais en comprenant bien, naturelle parce que la nature divine, c'est la nature du Christ. Parce que la grâce est donnée dès le point de départ de la naissance, dès le point de départ de sa conception. Alors, seconde réponse, seconde objection, la grâce et nature s'opposent, en ce sens que ce qui est gratuit vient de Dieu, ce qui est naturel vient d'un principe intrinsèque. Ça, c'est très joli comme objection. Hein. Faites la dialectique d'opposition entre la grâce et la nature, vous avez tout ce qu'il faut là. Mais deux choses opposées ne peuvent être dénommées l'une par l'autre. On ne peut donc pas dire que la grâce du Christ est naturelle. Réponse. Nous n'appliquons pas au Christ sous le même rapport les mots grâce et naturel. Gratia et naturalis. Nous parlons de grâce pour désigner ce qui n'est pas objet de mérite. Nous disons que cette grâce est naturelle parce qu'elle provient dans l'humanité du Christ de la puissance de sa nature divine et qu'il la possède dès sa naissance. Alors on dit que la grâce est naturelle. Oui, c'est la synthèse. Vous opposez grâce et nature et vous dites que dans le Christ, la grâce est naturelle. Et vous voyez bien comment. Parce que justement, dans le Christ, la nature divine fait partie du mystère du Christ. Le Christ implique la nature divine. Or, la nature divine est source de la grâce. Et d'autre part, vous la dites naturelle aussi parce que dès le premier instant de sa conception, il est lié au Verbe de Dieu, il a la plénitude de grâce. Ça, c'est presque un jeu de mots. Faut comprendre, mais c'est presque un jeu de mots de dire que dans le Christ, la grâce est naturelle. Et ça exprime bien l'état particulier du Christ, le status. Troisième objection, est dit naturel ce qui est conforme à la nature, mais la grâce d'union n'est pas naturel au Christ, parce que conforme à la nature divine. Autrement, elle conviendrait aussi aux autres par aux autres personnes divines. Elle ne lui est pas davantage naturelle parce que conforme à la nature humaine, car alors elle conviendrait à tous les hommes qui possèdent la même nature que le Christ. Il semble donc que d'aucune façon la grâce d'union ne soit naturelle au Christ. Réponse. La grâce d'union n'est pas naturelle au Christ parce que conforme à la nature humaine, comme si elle dérivait des principes de cette nature. C'est pourquoi elle ne saurait convenir à tous les hommes. Elle lui est cependant naturelle sous ce rapport de la nature, sous ce rapport de la nature humaine, parce qu'elle lui appartient dès sa naissance. Le Christ, en effet, du fait de sa conception du Saint-Esprit, fut à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Mais la grâce d'union est naturelle au Christ sous le rapport de la nature divine qui en est la cause. Il convient d'ailleurs à toute la très sainte Trinité d'être le principe actif de cette grâce. C'est reprendre autrement que ce qui a été dit, mais ça n'ajoute absolument rien. Vous voyez donc ce que signifie exactement cette question 2. Reprenez ce qui était dit au point de départ pour que nous puissions ponctuer, étant donné l'importance de la question première et de la question 2, il nous faut étudier maintenant de quelle manière le Verbe s'est uni à la nature humaine. Nous traiterons d'abord de l'union en elle-même. Au sujet de l'union en elle-même, diverses questions. Alors, la question 3, il nous faut maintenant considérer l'union sous le rapport de la personne qui assume. Vous voyez bien là, comment, là, ces deux questions se tiennent très fort. Hein. Si on pénétrait pleinement dans la question 2, la question 3 serait donnée. Mais comme, de fait, le mystère nous échappe, nous sommes obligés de regarder la question 3. Mais la question 3 est relative à la question 2, vous comprenez bien. C'est la question 2 qui nous fait regarder l'union en elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette union ? L'union dans la personne. L'union envisagée sous le rapport de la personne qui assume. C'est ici qu'on va comprendre quelle est la personne qui assume. À ce propos, 8 questions se posent. Convient-il à la personne divine d'assumer ? Vous voyez, c'est un peu une redondance par rapport à ce qui a été dit. La convenance de l'incarnation. Ici, c'est la convenance par rapport à une personne humaine d'assumer la nature humaine. C'est une précision, mais c'est dans le même ordre. Convient-il à la nature divine d'assumer ? La nature peut-elle assumer, abstraction faite de la personnalité ? L'une des personnes divines peut-elle assumer sans l'autre ? L'une ou l'autre de ces personnes peut-elle indifféremment assumer ? Plusieurs personnes peuvent-elles assumer une nature simple ? Une seule personne peut-elle assumer deux natures ? Convient-il davantage à la personne du Fils ? Qu'à toutes les autres personnes divines d'assumer la nature humaine. Vous comprenez que tout ça est ordonné à l'article 8. On peut prendre l'article 8 tout de suite, parce que l'article 8, c'est la fine pointe. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi c'est le Verbe et non pas l'Esprit Saint et le Père ? Nous serions tous pères, vous voyez ? C'est merveilleux, ça, se poser la question de cette manière-là. Alors, voyons la question première, puis nous verrons la question 8, puis après on verra le reste rapidement. Parce qu'il y a des tas de choses là-dedans qui peuvent aller... C'est pas... On se pose toutes ces questions-là, c'est très très bien. Pour celui qui a le temps, il regarde tout ça. Mais vous voyez, si on veut regarder le mystère lui-même, c'est la question première et la question dernière. L'article premier et l'article dernier. Donc, convient-il à la personne d'assumer une nature créée ? Il ne semble pas qu'il convienne à la personne divine d'assumer une nature créée. Le protervus, hein, qui est là, toujours l'objectant. Quand vous avez des objections par rapport au mystère de l'incarnation, eh bien, c'est ça qui est en vous. Qui dit personne divine, en effet, dit quelque chose de très parfait. Or, on ne peut rien ajouter à ce qui est très parfait. Puisse donc que l'assomption consiste à prendre à soi, en sorte que ce qui est assumé se trouve adjoint à ce qui assume, il ne paraît pas que la personne divine puisse assumer une nature créée. C'est très gros. Ça, c'est l'objection imaginative. Mais il va y avoir une bosse à la personne divine. La nature humaine va venir s'ajouter à la personne de divine. Donc ça ne convient pas du tout, parce que ce n'est plus la pureté, la simplicité de la personne divine. L'incarnation, c'est très gênant, parce que ça enlève la simplicité de la personne divine. Merleau-Ponty. Des objections comme ça, c'est pas digne de Dieu quand même. C'est pas digne de la simplicité de Dieu, l'esthétisme divin. Il faut qu'il garde la ligne, n'est-ce pas ? Et alors ça va plus, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une espèce de simplicité de Dieu absolue qui fait que non, il faut pas ajouter quelque chose. C'est ça, hein ? C'est imaginatif ça, c'est pour ça que c'est esthétique si vous voulez. Et c'est vrai qu'au point de vue esthétique, hein, c'est pas commode. Cependant, au dire de saint Augustin, le Fils unique de Dieu a pris en sa personne la forme, c'est-à-dire la nature de l'esclave. Vous voyez l'esthétique, hein ? C'est fameux, on prend un gros coup. Or, le Fils unique de Dieu est une personne. Il revient donc bien à la personne de prendre et assumer une personne. Ça, c'est un fait, hein. Ça n'explique rien du tout. Et en plus de ça, on montre que par là, il prend l'esclave, l'état d'esclave. Donc, c'est pas drôle. Alors, l'explication que donne saint Thomas. Le mot assomption, dit Chandum, in verbo assumptionis, duo importantur. Donc, le mot assomption, le verbe assumer implique deux significations, deux choses. Le principe et le terme de l'acte. Assumer, c'est en effet prendre et unir quelque chose à soi. Assumer, on assume. Or, la personne est à la fois principe et terme de l'assomption dont nous parlons. Elle est principe, car il appartient en propre à la personne d'agir. Et l'assomption de la chair a été faite par une action divine. Elle est au terme, car ainsi qu'il a été dit plus haut, l'union s'est faite dans la personne et non dans la nature. Il apparaît donc avec évidence qu'assumer une nature est tout à fait du ressort de la personne. Alors, on montre là la convenance, vous voyez, mais une convenance de facto, c'est la personne qui assume. Ça nous est révélé. C'est la personne qui est au point de départ et qui est terme. Donc, c'est bien la personne qui assume. Quand je dis assumer, ça relève de la personne. L'objection première, facile à comprendre, à la personne divine qui est infinie, il ne peut être fait aucune addition. Et c'est pourquoi saint Cyril, dans sa lettre synodale au Concile d'Éphèse, dit « Nous n'admettons pas un mode d'union qui serait une juxtaposition. Ainsi, dans l'union de l'homme à Dieu, par la grâce d'adoption, rien n'est ajouté à Dieu. » Mais le divin est communiqué à l'homme, en sorte que ce n'est pas Dieu, mais l'homme qui se trouve perfectionné. Dieu n'est changé en rien. C'est ça toujours le mystère, hein, parce que dès que nous touchons le mystère de Dieu, on ne peut plus rien saisir de positif. Hein. La simplicité de Dieu demeure absolue. par le mystère de l'Assomption, par le mystère de l'Incarnation. Rien n'est changé en Dieu. Donc, toute objection qui consiste à dire qu'il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est de l'imaginaire pur. Seconde objection, ce à quoi se termine l'Assomption est communiqué de quelque façon à la réalité assumée. Ainsi, la dignité est communiquée à ce qui est assumé sous le rapport de la dignité. Mais par définition, la personne est incommunicable, comme il a été dit dans la première partie. Une assomption dont elle serait le terme ne convient donc pas à la personne divine. Ça, c'est très joli. La personne est incommunicable, donc elle ne peut pas assumer. La personne est incommunicable en ce sens qu'elle ne saurait être attribuée à plusieurs suppôts. Mais rien n'empêche que plusieurs choses soient attribuées à la personne, ainsi que la personne soit communiquée de façon à subsister en plusieurs natures, cela ne va pas contre sa notion même. Déjà, dans une personne créée, plusieurs natures peuvent se rencontrer accidentellement, telle la quantité et la qualité en la personne d'un seul homme. Or, à la personne divine, en raison de son infinité, il appartient en propre de réaliser en elle le concours de plusieurs natures, non pas sous un mode accidentel, mais sous le rapport de la subsistance. Donc, on nous replonge dans le mystère. Il n'y a aucune impossibilité qu'une personne dont la subsistance est infinie puisse assumer une autre nature que celle dans laquelle elle se trouve habituellement. Et, autrement dit, c'est le bon plaisir de Dieu. C'est le bon plaisir de la sagesse de Dieu. Alors, article premier de la question première, c'est toujours la bonté qui nous fait comprendre ça. Il n'y a pas d'autre raison. Oui, l'infini montre qu'il n'y a pas d'impossibilité. Et la bonté explique la convenance. Enfin, si vous essayez de comprendre la manière dont saint Thomas appelle aux différents attributs divins, il faut être très attentif à ça, hein. Quand il appelle à l'infini, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction. C'est une chose possible. Ce n'est pas impossible du tout. Quand il appelle à la bonté, il montre quelque chose de positif. Tandis que s'il n'y a pas de positif, il exclut. C'est pour ça que c'est très décevant. Vous cherchez, vous trouveriez, vous auriez dit, mais oui, c'est normal que la personne assume. La seule raison, c'est que cette personne est infiniment bonne. C'est la seule raison. Vous revenez à l'argument premier. Il n'y a pas d'autre raison. C'est la gratuité pure. Or, dans la gratuité pure, on sait très bien qu'il n'y a pas de raison, si ce n'est la bonté. C'est la seule raison, c'est la bonté. Alors, dernière objection. La nature est constitutive de la personne, mais il répugne que le constitué assume le constituant, car l'effet n'agit pas sur sa cause. Il ne convient donc pas à la personne d'assumer la nature. Vous voyez bien, c'est les rapports entre personne et nature. Ce point de vue-là, c'est intéressant. C'est les rapports entre personne et nature. Hein. Normalement, quand vous regardez le point de vue de la personne et le point de vue de la nature est principe, la personne est pose. Elle est une manière d'être, tandis que la nature est principe. Donc c'est la nature qui constitue. Elle est le constituant. Elle est le constituant.
Alors, je ne veux pas dire que la personne est constituée, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'elle est constituée, c'est-à-dire la structure de la personne se prend de la nature. Telle personne, c'est telle nature. Vous avez la personne humaine, vous dites personne humaine, vous dites personne divine. Qu'est-ce qui structure la personne humaine? C'est la nature. Qu'est-ce qui structure la personne divine? C'est la nature. Donc c'est nature humaine ou nature divine. Donc on comprend bien l'objection. La différence entre les liens entre personne et nature. La personne indique une manière particulière d'être. Une manière particulière d'être. Et cette nature humaine, alors, subsiste dans cette autonomie. C'est pour ça que saint Thomas dira que la personne, c'est un tout. Il revient souvent là-dessus. C'est un tout, c'est une manière d'exister. C'est pour ça qu'il dit que c'est un pose. C'est du côté du pose. Et non pas du côté du principe propre. Alors, réponse de saint Thomas à cette question, c'est intéressant parce que, comme il a déjà été dit, la nature humaine ne constitue pas purement et simplement la personne divine. Elle la constitue seulement par dénomination. Elle ne donne pas en effet au Fils de Dieu l'être pur et simple. Non enim ex natura humana habet filium Dei quod sit simpliciter cum fuerit ab aeterno. Là encore, pour ceux qui s'intéressent à l'unique essai, hein, un lieu intéressant. La petite fiche sur le point de vue de l'essai.